Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Nous voici une fois encore dans la basilique supérieure de l'Immaculée Conception à Lourdes et nous regardons les fenêtres hautes de la basilique supérieure. Bon. Et ces fenêtres hautes, la série de droite évoque la progression, si j'ose dire, de la foi qui deviendra à la fois dogmatique de 1854 en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. On était parti, la première fenêtre à droite, c'était l'Annonciation. La deuxième, c'était le texte de l'Apocalypse 12 avec la femme revêtue de lumière et écrasant le péché symbolisé par la lune, l'astre mort. La troisième fenêtre, c'était la convergence sur le fond, du moins, c'était dans la formulation, encore qu'il y avait des formulations tout à fait identiques, pas dogmatiques, mais pour dire qu'elle était immaculée, de la Vierge Marie entre les pères de l'Orient et de l'Occident. Et puis nous arrivons donc à une quatrième, peut-être même une cinquième fenêtre, si on a le temps d'évoquer, ce sont les papes. Alors, la discussion était très ancienne dans l'Église. Est-ce que Marie a été indemne du péché originel? Oui, non, non, non. Bon, alors, en particulier, la Sorbonne, elle était favorable à la foi en l'Immaculée Conception. Et il fallait même, pour avoir ses grades à la faculté de théologie de la Sorbonne, il fallait dire qu'on croyait en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Mais la question restait controversée, parce qu'il y avait toujours cette histoire du péché originel. Saint Paul dit que le péché a couvert tout le monde. Bon, alors, on a toujours dit que, certes, Marie était la plus sainte, certainement, de toutes les saintes, mais enfin, quand même, n'avait-elle pas été elle-même soumise à la loi du péché originel? Bon, je vous dirai comment, mais je pense que ça sera dans une émission d'un mois suivant, comment l'Église, finalement, a résolu cette question. Et donc, comme il y avait débat, quand on n'en sort pas, finalement, on fait appel au pape, si je veux dire, ils sont faits pour faire ça, pour dirimer. Alors, il ne dirime rien du tout, d'abord, dans un premier temps, mais malgré tout, il donne certaines indications. Alors, il y a deux papes importants dans cette histoire, en particulier Sixte Quint, qui est pape de la fin du XVe siècle, et puis le pape Pie V au milieu du XVIe siècle. Alors, le pape Sixte IV, lui, édicte deux documents, et il approuve un office en l'honneur de la conception merveilleuse, la conception merveilleuse de la Vierge Marie. Et puis, surtout, il interdit aux tenants des deux thèses de s'excommunier mutuellement. Bon, vous pouvez dire que Marie, certes, la plus sainte de toutes les saintes, mais que malgré tout, fait partie du lot commun de l'humanité, donc tout c'est pas le péché originel. Ou bien vous pouvez dire, vous avez des arguments, les uns et les autres, c'est pas une raison de vous excommunier mutuellement. Je pense que ce texte est très important. Très très important, ça veut dire qu'il peut y avoir une conviction profonde dans laquelle on se retrouve et que, c'était difficile à ce moment-là de dirimer le débat, de pouvoir trancher absolument. Bon. Et donc il dit, en tout cas, vous n'avez pas le droit de vous excommunier mutuellement. Bon, la réflexion continuera et on aboutira finalement à la formulation du dogme, mais pas tout de suite. Et puis, il y avait quand même un office. Bon, alors, ce qui se dit qu'il y a un office, ça veut dire que, en tout cas, c'est une conviction recommandable. Bon, on pourrait dire un peu comme, vous voyez, certains sanctuaires, où Rome dit, mais on peut y aller prier, je pense à Medjugorje, je pense à la récente décision romaine, c'est ça. C'est pas une reconnaissance sur le fond. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une reconnaissance sur le fond. On ne se prononce pas, c'est pas les messages d'aujourd'hui, ce qui sont vrais, pas vrais. Bon, à voir. Mais en tout cas, aller prier là-bas, c'est possible. Je veux dire, c'est pas une voie d'erreur. Vous pouvez vous y sanctifier. C'est partie d'une dévotion pleinement chrétienne, pleinement catholique. Voilà. On pourrait dire c'est un petit peu de ce genre-là. Ça, c'est pour notre Sixte IV. Notre Sixte IV, la fin du XVe siècle. Et puis donc, le pape Pie V, XVIe siècle. Et le pape Isaac, je crois que c'est le pape dominicain, depuis ce temps-là que les papes sont vêtus de blanc. Et donc, c'est celui qui a été le réformateur de la liturgie après le Concile de Trente. Et alors, lui, il rend la fête de l'Immaculée Conception obligatoire. Avant, c'était possible, mais maintenant, il en fait une obligation dans le cycle liturgique. Là non plus, ce n'est pas une définition proprement dogmatique, mais c'est quand même, évidemment, quelque chose de très fort. Donc, la fête est obligatoire et le dogme est bas. Ben, on pourra dire c'est la même chose qui se produira quelques siècles plus tard pour l'Assomption. La fête du 15 août et de l'Assomption de la Vierge Marie est très ancienne. Bon, cependant, la formulation du dogme de la foi proprement catholique ne datera que de 1950. Dans cette fenêtre qui nous montre donc les deux papes, alors là, ils sont bien reconnaissables, ils ont la tiare sur la tête. Alors maintenant, les papes n'ont plus de tiare depuis que Paul VI a vendu la sienne pour le donner aux pauvres, évidemment. Pas pour le mettre dans sa poche, évidemment. Bon. Et donc, les papes d'aujourd'hui ne portent plus la tiare. Mais ça a été pendant très très longtemps l'insigne de la papauté. Au milieu, vous savez, il y a un médaillon au milieu, un médaillon du milieu, c'est l'évocation de l'apparition de la rue du Bac avec la Vierge, donc avec cette formule qui s'est ensuite gravée sur la médaille. « Au Marie conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et de ses mains tendues vers la terre émanent des rayons de lumière, ce sont les grâces que le Seigneur veut répandre par elle. Et puis, tout en haut, ce sont les gens qui vénèrent l'Immaculée Conception. Alors, vous avez d'un côté, vous avez un chevalier qui représente les ordres religieux et militaires qui sont consacrés à l'Immaculée Conception. Voilà. Et ils étaient assez nombreux, en particulier en Espagne. Il faut savoir que c'est l'Espagne, c'est dans l'Espagne que la dévotion à l'Immaculée Conception a été la plus fervente, et c'est les évêques espagnols qui ont été les plus insistants auprès des papes successifs pour essayer d'aller plus loin que simplement l'autorisation de la célébration liturgique et d'aller jusqu'à la formulation dogmatique. Et puis donc, en face, ce sont des représentants d'ordre religieux, masculin ou féminin, consacrés à l'Immaculée Conception, dont en particulier les oblats de Marie Immaculée, OMI. Bon. Et les oblats de Marie Immaculée, très importants, à Lourdes, alors pas tellement au moment où les vitraux ont été posés, au XIXe siècle, mais dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, bon, progressivement, les oblats ont été très très nombreux comme chapelains à Lourdes, puisqu'il y a eu jusqu'à 10 chapelains qui appartenaient à cette congrégation des oblats de Marie Immaculée, fondée par Eugène de Masneau, qui a été d'ailleurs sanctifié depuis. Et puis alors, des sœurs, des congrégations féminines dédiées à l'Immaculée Conception. Il y en a énormément. Évidemment, ça pouvait exister avant même qu'il y ait la formulation, la définition d'un dogme à proprement parler. Voilà. Alors écoutez, on n'a pas tout à fait fini, la semaine s'achève, on n'a pas tout à fait fini la visite des fenêtres. Eh bien, écoutez, je reprendrai la parole. On verra les autres fenêtres, puis on sera à nouveau de réfléchir sur la signification, le pourquoi de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, en particulier dans l'enseignement actuel des papes ou des papes actuels, et puis aussi l'office de l'Immaculée Conception, en lisant les textes qui vont reprendre d'ailleurs beaucoup des éléments qu'on a pu découvrir dans la visite des vitraux, que ce soit ceux de cette semaine pour le Nouveau Testament ou ceux de l'Ancien Testament. Voilà, d'ici là, si le 8 décembre est intervenu entre-temps, je vous souhaite une belle fête de l'Immaculée Conception, qui sera d'ailleurs la fête de la consécration de l'autel à Notre-Dame de Paris. Alors à bientôt.